Voici une question qui fait réfléchir. Est-ce que je dois vivre à la manière des pécheurs pour les attirer à Dieu? Ouvrons grandes nos oreilles. Nous aurons la réponse de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. La parole de Dieu est vivante. Elle répond à toutes nos questions. Aujourd'hui, elle va répondre à celle-ci. Serait-il possible que mon cœur soit trompeur? Est-ce qu'il se peut que je voie les péchés des autres et que je ne vois pas les miens? Quand je veux parler du Seigneur avec un pécheur, est-ce que je dois pécher moi aussi pour qu'il se sente à l'aise avec moi? Est-ce que Dieu bénirait mes témoignages si j'annonçais sa parole en m'y conformant? Le Seigneur est au rendez-vous, mes amis. Écoutons les réponses qu'il va nous donner par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur, on sait que tu détestes le péché. Alors viens nous enseigner, Seigneur, à travailler avec un cœur pur, à nous éloigner du mal pour attirer les pécheurs à toi. Pour qu'on soit béni dans notre travail. On te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Nous allons étudier le 38e chapitre de la Genèse, un chapitre qui nous révèle le péché de Judas. Premièrement, je vous fais remarquer que les fils de Jacob devaient être une piètre consolation pour celui-ci. Je pense que tous les fils de Jacob lui ont causé des soucis, des ennuis, sauf peut-être Joseph et Benjamin. Je tiens à vous le rappeler. Le cœur de Jacob fut brisé par la disparition de Joseph. Ceci nous montre que Jacob a passé trop de temps à Padan Aram à accumuler des richesses plutôt qu'à enseigner ses enfants. Rapportons-nous à ce texte biblique que nous avons déjà étudié, Genèse 18, verset 19. Je cite, « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Cependant, Jacob a négligé ce devoir, puisqu'il était toujours aux prises avec l'oncle Laban. Il n'avait pas le temps de s'occuper de ses enfants. Des conséquences tragiques s'ensuivirent, car tous les fils de Jacob furent impliqués dans des actions immorales. Pourquoi la Bible nous raconte-t-elle le péché de Judas à ce moment-ci de l'histoire? Je propose deux raisons. Premièrement, des noms que nous retrouvons dans ce chapitre se retrouvent dans la généalogie de Jésus-Christ au premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Cela nous montre que Jésus-Christ s'est joint à la race humaine à travers une lignée pécheresse. C'est ce qu'il a choisi de faire. Ensuite, c'est parce que nous retrouverons Joseph en Égypte au prochain chapitre, où Joseph a compris à travers les circonstances de sa vie que c'est Dieu qui l'y a envoyé pour y préparer la venue des enfants d'Israël. En fait, le véritable but n'était pas qu'ils aillent en Égypte, mais qu'ils sortent du pays de Canaan et qu'ils s'éloignent des Cananéens corrompus pour s'isoler dans le territoire de Gozen en Égypte. Si Jacob et ses fils étaient demeurés au pays de Canaan, ils se seraient corrompus comme les habitants du pays. Les Cananéens, qui étaient une abomination aux yeux de l'Éternel, exerçaient une influence sur les fils de Jacob. Ce chapitre prouve qu'il était nécessaire de retirer la famille de Jacob du pays de Canaan. Maintenant, nous parlons de Judas, dont ses descendants formeront la lignée royale dans laquelle naîtra le Christ. Débutons cette fabuleuse histoire, ce récit que nous retrouvons dans Genèse 38, versets 1 et 2. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Nous avons aussi l'histoire de Judas. Bref, il alla vers un homme d'Adullam, probablement pour y traiter des affaires, il vit la fille de Shua, un Cananéen. Verset 3, elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Il eut une aventure avec elle, et elle devint enceinte et donna naissance à un fils qui fut nommé Er. Le nom convenait bien parce que Judas avait erré. L'enfant est le fruit d'un péché. Versets 4 à 6. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Sib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. C'est ainsi que Tamar a obtenu sa place dans la généalogie de Christ. Verset 7. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Notez la conduite immorale que nous retrouvons dans la famille de Judas. Versets 8 à 10. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Ceci correspond à ce que nous voyons aujourd'hui avec toute l'importance que nous attachons au domaine sexuel. Judas et ses fils y attachaient aussi beaucoup d'importance. Verset 11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. À cette époque, chers amis, selon la coutume, un homme devait épouser la femme de son frère si celui-ci mourait sans laisser de postérité. Onan a refusé de donner une postérité à son frère, et Dieu l'a frappé. Maintenant, Judas demande à Tamar de retourner chez son père jusqu'à ce que son plus jeune fils soit en âge de l'épouser. Revenons à notre texte. Lisons ensemble les versets 12 et 13. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'Adulamite. On en informa Tamar, et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Les relations entre Ira et Judas ont un rapport avec l'élevage des moutons. Maintenant, les frères ont d'énormes troupeaux, et Judas se rend à Timna pour tondre les brebis. Verset 14. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et que ne lui était point donné pour femme. Shéla est, bien entendu, le troisième fils de Judas. Tamar se rend compte que Judas n'a pas vraiment l'intention de la donner à Shéla comme épouse. Poursuivons, verset 15. Judas la vit. Il la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Tamar a ôté ses vêtements de veuve et s'est déguisée en prostituée. Tiens, 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 tiens. Poursuivons notre histoire, verset 16. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Judas commence à faire des avances à Tamar, tout comme il l'a fait avec sa mère, une femme cananéenne. C'est une triste et sombre scène que nous avons devant nous. Tamar a vu une occasion de rouler Judas et elle l'a saisi. Versets 17 à 20. Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon, et le bâton que tu as à la main. » Et il lui donna. Puis, il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami, l'Adulamite, pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il vint au village pour livrer le chevreau, mais il ne trouva pas la prostituée. Revenons à notre texte, versets 21 à 24, et poursuivons et lisons la suite de cette histoire. Il interrogea les gens du lieu en disant, « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm, sur le chemin ?» Ils répondirent, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Judas et dit, « Je ne l'ai pas trouvée, et même les gens du lieu ont dit, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Judas dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Judas dit, « Faites-la sortir, et qu'elle soit brûlée. » C'est bien, Judas. C'est toujours l'éternel standard, hein? Dieu n'approuve pas cela, mes amis. L'incident est raconté dans sa parole, mais cela ne signifie pas qu'il approuve ce qui se passe. La parole dénonce le péché, dénonce le cœur de l'être humain. Son peuple agit comme les Cananéens, et c'est pourquoi il va les faire sortir de ce pays pour les amener en Égypte. Dieu protège son peuple, les siens. Il va les séparer et les isoler dans le territoire de Gozen pour les soustraire à cette influence néfaste. Cet incident démontre la nécessité que Dieu fasse cela. Ce que Judas fait est un véritable scandale, mes chers amis. Il se comporte d'une façon terrible et totalement inadmissible. Faisons attention. En fait, Judas est habile pour percevoir le péché des autres, mais il ne le voit pas dans son propre cœur. Cela nous rappelle à la fois où Nathan, le prophète, est allé voir David pour lui raconter une histoire. L'histoire de l'homme pauvre qui n'avait qu'une toute petite brebis. Lorsque Nathan lui a dit que son voisin, un homme riche, la lui avait prise, David a immédiatement condamné l'action de cet homme. David a réagi comme Judas le fait ici. David voulait faire lapider immédiatement l'homme riche. Alors Nathan lui a dit que l'homme, c'était lui. Il est étonnant que nous puissions voir clairement le péché des autres, mais que nous ne le voyons pas dans notre propre cœur. Nous reprochons à Judas 2 choses dont il s'est rendu coupable. Son péché est grave en soi, mais en plus, il l'a fait avec sa propre belle-fille. C'est ainsi que vivaient les Cananéens. Nous pensons vivre une révolution sexuelle de nos jours et découvrir une nouvelle liberté. Mes amis, les païens connaissent la liberté sexuelle depuis des millénaires et même depuis toujours. Aussi pourquoi Dieu les a jugés et a ordonné qu'ils soient exterminés. Les Cananéens ne sont plus, ils sont disparus, Dieu les a jugés. Ceci devrait tous nous parler. Cependant, un grand nombre de personnes ne semblent pas avoir d'oreilles, même des chrétiens. Vous vous demandez pourquoi ce chapitre est dans la Bible. Il est là pour nous montrer que Dieu n'approuve pas le péché. Il explique pourquoi Dieu a fait sortir Israël de la Palestine pour les conduire en Égypte. Tamar est conduite à son beau-père. C'est ce que nous lisons, Genèse 38, verset 25. Comme on l'amena dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. » Au moment où Judas allait la brûler, Tamar lui présenta les objets en lui faisant savoir qu'elle désirait qu'il sache qui est le père de l'enfant. Judas dut reconnaître sa paternité. Genèse 38, verset 26. Judas les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. » Et il ne la connut plus. Cette coutume cananéenne dégoûtait Judas, mais il vivait dans leur culture. Voyez-vous pourquoi Dieu doit sortir la famille de Jacob de Canaan, loin de ses habitants? Puis-je prendre un moment pour faire une application de tout cela? Rappelez-vous ces choses. Elles sont écrites pour notre instruction. Elles sont des exemples pour nous. Aujourd'hui, certains disent que si l'on veut témoigner aux gens, si l'on veut communiquer avec eux, il faut se mettre à leur niveau et faire comme eux. Je ne suis pas d'accord avec cela. Dieu n'a jamais utilisé une telle méthode. Dieu a toujours demandé aux siens d'être saints comme il est saint, et ce, en toutes circonstances. Je peux m'imaginer nos théologiens modernes aller vers Noé et lui dire, « Frère Noé, tu passes tout ton temps à construire ce bateau, et c'est ridicule d'agir ainsi. » Nous avons toute une fête prévue ce soir à Babylone. Nous avons reçu notre commande de marijuana et nous allons tous nous geler. Nous allons distribuer des joints, nous allons avoir du plaisir et faire un merveilleux voyage. Pas besoin de bateau pour ce genre de voyage. Nous allons te l'offrir. Viens avec nous, Noé. » Noé, bien entendu, refuserait. Alors les théologiens lui demanderaient, « Comment comptes-tu toucher la communauté épie de Babylone? Comment vas-tu transmettre ce message divin? En pratiquant les mêmes choses qu'eux? » Dieu n'a jamais demandé à Noé de pratiquer ces choses. Il lui a demandé de proclamer son avertissement selon sa parole. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire encore aujourd'hui. Je suis persuadé que si le peuple de Dieu enseignait sa parole, tout en s'y conformant, Dieu bénirait cette parole par des conversions. Trop de pasteurs de nos jours craignent de perdre leurs ouailles, dont ils font n'importe quoi pour attirer la foule, et plusieurs ont réussi à s'attirer des problèmes, plutôt que la foule. Mais Dieu ne nous a jamais demandé de faire des compromis. Dieu nous demande de prêcher selon sa parole, qu'importe la grosseur de notre congrégation, de la foule de l'auditoire qui a placé devant nous. Ceci me rappelle un incident qui s'est produit alors que le docteur Schofield était invité à prêcher. Il pleuvait à boire debout le premier soir, donc l'auditoire était peu nombreux. Le pasteur de l'endroit sentit besoin de présenter des excuses au docteur Schofield. Il s'est penché vers son invité et lui a dit qu'il regrettait que si peu de personnes se soient déplacées pour entendre un homme de sa trempe. Le docteur Schofield répondit au pasteur. « Monseigneur avait un auditoire de 12 hommes, puisqu'il n'avait que 12 hommes, et qu'il ne s'est pas plaint. Qui est le docteur Schofield pour se plaindre d'un petit auditoire? » Mes amis, notre génération a besoin d'entendre cela. Nous voulons des foules. Malheureusement, nous pensons que si la foule est petite, cela indique que Dieu ne bénira pas. Il se peut que Dieu nous ait appelé à témoigner qu'à un petit nombre de personnes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous prêchez la parole, elle agira avec puissance. Mon ami, la parole de Dieu est puissante et Dieu cherche des vases sanctifiés pour la proclamer. Bien, Judas a fait comme les Cananéens au lieu de plaire à l'Éternel. Et voilà le résultat. Maintenant, lisons les versets 27 à 30. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « quelle brèche tu as faite ! » et lui donna le nom de Pérets. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zirac. Voici les noms dont nous avons parlé plus tôt. J'aimerais que vous tourniez avec moi au premier livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, afin d'y lire à partir du verset 2 du premier chapitre. Lisons ensemble. Matthieu, chapitre 1er, versets 2 à 6. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Et plus loin dans la généalogie, nous lisons, verset 16, toujours de Matthieu, chapitre 1er, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Jésus est issu de la lignée de Judas. Et nous voyons que Dieu doit les sortir de Canaan pour les amener en Égypte. Maintenant, revenons à l'histoire de Joseph, qui lui est déjà en Égypte. Il n'y est pas descendu de son propre gré, mais c'est là que nous le retrouvons. Au dernier verset du chapitre 37, nous avons vu que Potiphar, un officier de haut rang de l'armée de Pharaon, a acheté Joseph des Madianites. Nous allons voir que Joseph est très différent de Judas. Je pense que Joseph et Benjamin ont eu de l'attention et qu'ils ont reçu de l'enseignement que les plus vieux n'ont pas reçu. Il semble que Jacob ne se soit intéressé qu'à ces deux garçons. À cause de la haine que ses frères éprouvaient pour Joseph, il fut vendu comme esclave en Égypte et il fut acquis par Potiphar. Celui-ci était un officier de haut rang. Il devait avoir un bureau dans l'édifice gouvernemental de l'époque. Il fait partie de l'élite militaire. On débute Genèse 39 en lisant les deux premiers versets de ce nouveau chapitre. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Nous ne pourrons pas aller plus loin aujourd'hui. J'aimerais cependant attirer votre attention sur un détail très important. Premièrement, la Bible ne nous dit pas que Dieu est personnellement apparu à Joseph. Cependant, nous avons plus de preuves que Dieu contrôlait et dirigeait sa vie comme nous en avons pour les autres personnages de la Genèse. Dieu est apparu aux trois autres patriarches, mais pas à Joseph. Mes chers amis, c'est à suivre. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Genèse 39.
Merci, Régent. Je pense qu'on a bien compris que notre cœur est vraiment trompeur. D'ailleurs, Jérémie nous le dit clairement. Au chapitre 17, verset 9, il dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? » Je me suis fié à mon cœur, moi, pendant 30 ans. Puis il m'a amené à la ruine spirituelle. Puis vers la fin de cette période de ma vie, je me souviens, j'ai essayé de lire la Bible, puis je comprenais absolument rien. Puis plus tard, quand j'ai connu le Seigneur à ma conversion, j'ai ouvert la Bible, puis je la comprenais. Alors j'avais besoin de l'Esprit-Saint, j'avais besoin du Seigneur. Sans lui, j'étais vraiment dans la ruine. Puis une autre chose qui est arrivée aussi à ma conversion. Je croyais qu'on ne péchait plus jamais. Puis je me souviens, à un moment donné, j'ai vu des gens qui s'étaient convertis comme moi. Puis j'ai remarqué qu'il y avait des péchés dans leur vie. Puis ça m'a scandalisé. Jusqu'au jour où moi-même, j'ai vu que j'étais encore une pécheresse. J'ai vu qu'il fallait pas que je juge les autres. Et le Seigneur veut qu'on s'éloigne du mal, mais on reste des pécheurs quand même. Mais quand j'ai vu mes péchés, en tout cas, je vous dis que ça m'a donné tout un coup. On a appris aussi aujourd'hui que c'est pas en péchant qu'on va attirer les pécheurs à Dieu. Ça me rappelle une belle prière de Jésus à son Père dans Jean 17, 15, là où il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Aujourd'hui, je suis dans le monde, mais Jésus me préserve du mal. Mais il faut que je veuille, par exemple. J'ai remarqué qu'il faut quand même s'éloigner du péché, faire tous nos efforts, prier, lire dans la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui nous fortifie, qui nous donne plein de force contre le mal. Et puis j'ai vu que aussi, il faut avoir une conduite sainte. Le Seigneur a dit « Vous êtes saints, car je suis saint. » Je sais qu'il s'attend qu'on ait une conduite sainte. Et par cette pureté, par cet amour aussi que Dieu met dans notre cœur, voilà le moyen d'attirer les gens à lui. Pas de les attirer à nous-mêmes, de les attirer à lui. Lui, le Seigneur Jésus, est venu sur la terre, puis il n'a jamais péché. Quel modèle il a été pour nous, en plus d'être notre sauveur, en plus d'avoir pris tous nos péchés sur ses épaules, de les avoir cloués avec lui sur la croix. Alors, je sais que Dieu s'attend à ce qu'on ait une conduite sainte en tout temps. Et quand on vit dans le bien, on fait ce qui est bien, puis on se tient avec les gens qui connaissent pas encore Dieu, ils finissent par le remarquer, puis à désirer. Je me souviens, moi, la personne qui m'a parlé du Seigneur, elle avait une conduite sainte. Elle parlait de paix, puis je voyais la paix dans ses yeux. Elle parlait d'amour, elle agissait avec amour envers son prochain. Et elle parlait du péché comme étant une chose que Dieu déteste. Et puis, on voyait qu'elle-même, elle détestait le péché, qu'elle marchait droitement devant Dieu. Elle était honnête, avec des sentiments purs. Et puis, elle était un exemple pour moi. Alors, j'avais envie d'être comme elle. C'était tellement beau de la voir marcher dans les voies de Dieu. Alors, à nous, chrétiens, d'avoir une conduite sainte, afin que les gens, même s'ils parlent contre nous, ils voient quand même qu'on est des enfants de Dieu, qu'on porte la semence de Jésus-Christ dans nos cœurs et qu'on vit la parole de Dieu dans nos vies. Alors, je t'encourage, mon frère, ma sœur, à t'éloigner du péché, à être un modèle pour les gens, pour qu'ils désirent avoir la même vie que toi. Alors, continuons à marcher droitement dans la parole de Dieu, à nous éloigner du péché, à faire ce qui est bien devant Dieu et devant les hommes.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici Régent Joly qui vous dit à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.